Alors, je me rappellerai toujours, quand on m'a offert le poste en 2014 par le conseil d'administration, j'ai tout de suite traversé l'autre côté de la rue parce que la STM était à la place Bonaventure. Elle est encore là aujourd'hui. Et je suis allé voir le maire Coderre à l'époque dans son bureau pour une première rencontre.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 186e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que l'équipe de J7 Media qui est derrière ce podcast produit également deux autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook, et Commerce Elite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez y jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques afin de terminer l'année en force, rendez-vous au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, media au singulier.com/hypercroissance. HYPERCROISSANCE afin d'obtenir gratuitement une analyse de vos campagnes actuelles ainsi qu'un plan de match personnalisé pour les mois à venir. Vous pouvez également venir discuter directement avec moi sur LinkedIn si c'est plus facile. Imaginez un instant être en charge de tout le réseau de transport en commun de la ville de Montréal. Vous avez entre les mains la responsabilité de plus de 10 000 employés et de plusieurs centaines de milliers de clients utilisant vos services à tous les jours. La responsabilité de piloter la 8e plus grande entreprise au Québec est de taille et loin d'être de tout repos. Mon invité du jour, Luc Tremblay, a piloté la STM de 2015 à 2022 en y rencontrant des défis comme la COVID-19, par exemple. Mais également des succès assez impressionnants comme l'implantation des trains Azur ou encore l'ajout de 300 nouveaux autobus. Également sous sa gouverne, la Société de transport de Montréal a gagné 12 points supplémentaires vis-à-vis la satisfaction de sa clientèle. Malgré tout, on peut voir dans l'entretien avec Luc que la STM a besoin d'un renouvellement si elle veut assurer sa pérennité sur le long terme. On en discute plus longuement pendant la discussion. Sans plus attendre, ma discussion avec Luc Tremblay. Luc Tremblay, vous avez été pendant près de 28 ans au sein de la STM où vous avez opéré plusieurs rôles dans l'organisation allant de coordinateur de système comptable à directeur général. Afin de situer un peu l'audience aujourd'hui, le système de transport de Montréal compte plus de 11 000 employés dans ses rangs et se situe au 8e rang des plus grandes entreprises au Québec. Luc Tremblay, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être là.
Et Luc, avant de discuter ensemble de ta carrière et tes accomplissements avec la STM, peux-tu situer un peu nos auditeurs sur l'éventail complet de services offerts par la STM, parce que c'est beaucoup plus que notre réseau de métro, là.
Bien évidemment, oui, le métro, on le connaît, c'est quelque chose qui est un petit peu la signature de la STM. Effectivement, c'est plus que ça. Bon, le métro, on le sait, là, on connaît les lignes de métro et tout ça, mais il y a aussi plus de 200 lignes de bus sur le territoire montréalais. Transport adapté aussi, très important. La STM fait affaire avec près d'une dizaine d'intermédiaires là, pour permettre à ces gens-là qui sont un peu moins choyés par la vie de pouvoir avoir accès quand même à une vie normale, c'est-à-dire aller au travail, aller à l'école, avoir des loisirs. Donc ça, c'est souvent, on y pense pas, mais il y a plus, avant la pandémie, il y avait pratiquement plus de 4 millions de déplacements qui étaient faits pour le transport adapté. Donc bus, métro, transport adapté, c'est les trois grandes lignes d'affaires, si on veut, de la STM. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est un des plus grands donneurs d'ouvrages au Québec, pas juste à Montréal. La STM a un carnet de projets de 20 milliards de dollars qui amène beaucoup de croissance économique, qui fait vivre un peu aussi l'activité économique au Québec. On a des fournisseurs partout à travers tout ça. Alors, un budget de 3 milliards de dollars, donc c'est-à-dire autant de projets, 1,5 milliard à peu près de projets par année, puis 1,5 milliard pour faire les trois lignes de produits que je parlais tout à l'heure. Alors, une grosse entreprise, comme vous le disiez dans votre introduction, là, quand même la 8e entreprise au Québec, qui joue un rôle évidemment très important autant dans la vie des Montréalais et des Montréalais au quotidien. Mmh.
Puis bon, si on parle un petit peu de ta carrière personnelle, je pense que tu rentres dans l'organisation en 1994. Préalablement, j'ai pu voir que tu as étudié en comptabilité au HEC. Comment s'est présentée à l'époque l'opportunité d'aller travailler avec le STM?
Ben, c'est une très bonne question parce qu'il y a un lien là, très, très rapide dans ma carrière avec le STM. Je suis sorti des HEC en 90 et bon, j'ai étudié en comptabilité. Je suis allé chercher mon titre comptable et pour être en mesure d'obtenir le titre comptable, il faut faire un stage dans un cabinet comptable, ce que j'ai fait au sein de la firme qui, à l'époque, s'appelait Raymond Chabot, Martin Paré, qui est maintenant Raymond Chabot, Grant Thornton. J'ai rapidement été associé au mandat. La SM était le client, un des clients importants de cette firme d'auditeurs-là. Alors, dès mon jeune âge, à l'époque, au début des années 90, là, il y avait une grande crise économique, donc c'était difficile d'avoir des emplois. Et puis, moi, j'ai été tout de suite affecté au mandat de la SM. Alors, la SM, je l'ai connue de l'extérieur avant de la connaître de l'intérieur. Ça a été mon client pendant 3 ans et demi. Et puis, est arrivé comme ça une opportunité d'emploi pour le poste de coordonnateur des systèmes comptables à l'époque. On m'a offert le poste. C'était quand même un exploit à l'époque parce que il y avait très peu de gens qui pouvaient obtenir des postes dans le public en tant que tel. Les postes étaient beaucoup pourvus par l'interne. Donc, d'aller recruter à l'externe, c'était extrêmement difficile. Alors, j'ai réussi par un concours de circonstances. Le poste n'était pas nécessairement à l'époque syndiqué. Ça permettait d'être un peu plus facile d'aller voir à l'extérieur. Alors, j'ai obtenu le poste et c'est comme ça que ma carrière a commencé là à ce moment-là. Le 30 mai 94 exactement.
Et puis j'ai pu voir que rapidement tu montes les échelons. Donc après 4 ans comme coordinateur des services comptables, tu es nommé chargé d'affaires et responsable de la solution SAP. Est-ce que c'est toi continuellement qui demandais des nouvelles responsabilités ou on te les proposait? Parce que au final, je pense que ça va être près de 8 postes que tu vas avoir opéré dans l'organisation avant de devenir directeur général.
C'est une bonne question. En fait, je dirais que c'est un peu des deux. La réponse est oui et non. C'est-à-dire que, évidemment, on est toujours à l'affût d'opportunités. La formation que j'avais en finance comptabilité me permettait d'avoir un certain horizon large pour pouvoir appliquer sur plusieurs postes. Et moi, la gestion m'intéressait. Alors, j'ai beaucoup fait des démarches pour pouvoir avoir accès à ces postes-là, mais en même temps, on m'a donné la chance, mais toujours par intérim. Ça, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que on n'a pas vraiment les coups des franges. Ça développe quand même des habiletés qu'on n'a peut-être pas quand on nous fait confiance d'emblée. Alors ça a été pour moi, avec le recul, quand même assez formateur. Il y a 5 niveaux de gestion à la STM et je les ai fait les 5. Et dans les 5 cas, j'ai eu les postes par intérim avant d'avoir les postes officiellement. Alors, faut faire ses preuves, faut être en mesure d'être capable de jongler avec les nuances, être capable avec l'incertitude, parce que quand on n'a pas le poste formel, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, on est toujours un petit peu sur la corde raide. Ça développe des habiletés, je pense, peut-être qui sont plus longues à développer. Alors, oui, je suis allé à l'offensive, si on veut, pour aller chercher des opportunités, mais on ne me les a pas données nécessairement gratuitement comme ça. Il faut que je fasse mes preuves à plusieurs endroits. Puis je pense qu'avec le recul, ça a été très bénéfique. Puis je me rappellerai toujours, je le disais à mes employés quand j'étais en fonction. Quand j'ai postulé pour mon premier poste de gestion à l'époque, on se retrouve en 1997, les tests psychométriques commençaient à peine à l'époque. Je passe le premier test psychométrique et puis on me dit, le psychologue dit au comité de sélection que, bon, malheureusement, ça vaut pas la peine d'investir dans un candidat tel que Luc Tremblay. Alors, ça a été pour moi, là, la plus belle chose qui pouvait pas m'arriver. J'ai réalisé qu'être un gestionnaire, c'était pas nécessairement être un expert de contenu, et qu'il fallait développer d'autres types de qualités que j'avais probablement pas à l'époque. Alors, je me suis mis à la tâche. J'ai eu la chance d'être aidé, des mentors qui m'ont fait grandir. Et j'ai terminé directeur de général pour les 8 dernières années de ma carrière à la STM. Alors, c'est la preuve que ça s'apprend et qu'il y a possibilité de se développer. Puis, je remercie encore la STM pour m'avoir fait grandir dans cette expérience-là. Puis, sur le coup, ça a été un choc, mais avec le recul, je pense que ça m'a été très bénéfique.
Et parlons un petit peu de cette direction générale que vous avez fait pendant 8 ans à partir de 2015. Moi, j'aurais une petite question pour vous aujourd'hui parce que quand on a eu la chance de recevoir Catherine Dagenet sur le podcast, qui est la présidente actuelle de la SAQ, elle nous expliquait un petit peu comment le processus de nomination pour un nouveau dirigeant dans une société publique était mis en place. Il y avait certaines étapes. C'était un processus qui était quand même assez robuste. Je pense qu'ici, elle relève du gouvernement provincial. Vous, de votre côté, la STM, vous le relevez de la ville de Montréal, je crois bien. Comment tout ça se met en place? Comment le processus de nomination pour un nouveau directeur général se crée, se fait?
En fait, c'est un peu complexe hein, parce que la STM, justement, c'est un de ses enjeux, à mon sens, là, c'est sa gouvernance. La STM a 3 principaux actionnaires. Alors, ce n'est pas seulement un ou l'autre. Là, c'est la ville de Montréal, le gouvernement du Québec et maintenant l'Autorité régionale des transports métropolitains. Alors, 3 actionnaires qui n'ont pas toujours nécessairement les mêmes orientations, les mêmes priorités. Mais officiellement, le processus de sélection du directeur général relève du conseil d'administration de la STM. Parce que malgré tout, malgré qu'elle ait trois actionnaires principaux, elle est entièrement autonome, la Société de transport de Montréal. Alors, c'est le conseil d'administration qui procède à ce moment-là, à mon, encore dernièrement, quand j'ai quitté, à une, avec des chasseurs de tête, là, un appel de candidature. Dans mon cas, en 2014, ça s'est fait à l'international. Donc, j'étais en compétition là avec des gens partout à travers le monde. Alors, plusieurs entrevues, évidemment, dans un processus avec la firme de chasseurs de tête, tests psychométriques et puis, évidemment, présentation de notre vision avec le conseil d'administration. Donc, une fois que tout ça est fait, il y a un choix qui est fait, mais qui est quand même discuté avec, même si la société de transport elle est autonome, on va voir les actionnaires puis on s'assure qu'il n'y a pas d'enjeu majeur. Alors, je me rappellerai toujours, quand on m'a offert le poste en 2014 par le conseil d'administration, j'ai tout de suite traversé l'autre côté de la rue parce que la STM était à la place Bonaventure, elle est encore là aujourd'hui. Et je suis allé voir le maire Coder à l'époque dans son bureau pour une première rencontre de politesse parce qu'évidemment, c'était un de nos principaux actionnaires. Alors, même si le conseil d'administration était formellement responsable de la nomination du DG, il y avait quand même des choses, si on veut, des démarches à faire avec les actionnaires en tant que tels. Alors, dans notre environnement, beaucoup de politique, ça fait partie de notre réalité. Je le disais tout à l'heure, là, les deux des principaux actionnaires sont dans le domaine politique. Alors, ça fait partie de la réalité. Donc, un processus qui, somme toute, s'est étalé là, sur près de 6 mois. Et quand on termine tout ça, bien, un peu épuisé, mais très content.
Est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher? Est-ce que vous avez postulé? Est-ce que depuis un certain temps, vous aviez émis de l'intérêt à devenir directeur général?
Bien, ça reflète un peu la question, la réponse que j'ai donnée tout à l'heure à la question. Là, j'étais déjà à l'emploi de la STM. J'étais son trésorier depuis une dizaine d'années. J'étais sur le comité de direction. Et puis, on m'a donné le poste par intérim. Mon prédécesseur venait d'être congédié. Donc, j'ai occupé la fonction pendant 6 mois. Et on m'a dit à l'époque, ben, c'est pas toi qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui va permettre d'assurer une transition le temps qu'on trouve quelqu'un. Mais on cherche quelqu'un qui va nous faire penser à l'extérieur de la boîte et qui va nous amener ailleurs. Et ben je pense que dans le processus de sélection, j'ai été capable de démontrer que c'est pas parce qu'on vient de l'interne qu'on n'est pas capable de voir les choses différemment. Moi, c'était la condition sine qua non de prendre ce poste-là. Je la connaissais tellement bien. Je connaissais ses défauts, je connaissais ses belles choses, ses forces. Alors, je pense que j'avais un atout que j'ai fait miroiter et ça a fonctionné. Et je pense qu'après ça, les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Alors, ça reflète, c'est l'exemple concret quand je disais tout à l'heure qu'il y a eu 5 postes de gestion. Les 5 ont été par intérim. Donc, même celui de directeur général, on me l'avait donné temporairement et j'ai été capable de démontrer que j'étais l'homme de la situation pour la suite.
Et bon, vous avez dit les bons coups, les moins bons coups de la STM. Dans quel état était le réseau quand vous avez repris la direction générale? Parce que bon, on entend plusieurs choses dans les médias, des fois que les choses vont bien, des fois que les choses vont moins bien. Quel était l'état de la situation en 2014, en 2015, quand vous êtes devenu directeur général?
En fait, on était dans la fin d'un cycle, le plan stratégique qui était terminé. C'était un plan stratégique qui était échu, qu'il fallait revoir complètement. Donc, une belle opportunité pour être capable de mettre sa vision en place, puis de amener la STM un peu ailleurs. La STM, c'est un peu comme une course à relais. Là. On prend les choses de notre prédécesseur et on essaie de les amener un petit peu plus loin. Donc, une belle opportunité parce qu'il y avait une place pour arriver avec quelque chose de nouveau. Comme aujourd'hui, hein, ça fait des années, crise financière très, très grave à l'époque. Le budget était déséquilibré. Il était équilibré virtuellement avec un manque à gagner, comme ça a été annoncé d'ailleurs pas plus tard qu'hier dans le budget ou avant-hier. Le budget de la SM a été déployé. Donc, c'était dans le même genre que ça, avec un manque à gagner important. Aussi, on avait mis beaucoup l'accent sur le développement de l'achalandage, qui était une très bonne chose, mais on avait laissé tomber peut-être un petit peu les infrastructures. Pour avoir du service de qualité, ça prend des infrastructures en ordre. Et on y avait manqué d'amour depuis très longtemps. Donc, on avait un déficit de maintien actif important et des projets d'envergure qui étaient en cours. Dans notre milieu de transport collectif, des projets d'envergure, c'est long, ça dure plusieurs années, construire un train, construire un réseau, acheter des bus. Alors, quand je suis arrivé, les voitures Azure étaient à le projet de remplacement des voitures MR63 par des voitures Azure, les nouvelles voitures qui roulent en ce moment étaient à ses premiers balbutiements. Il y avait tout le système e-bus qu'on a déployé pendant mon mandat qui était en cours. Donc, des grands projets d'envergure qui étaient en place. Donc, beaucoup de turbulences, si on veut, dans un milieu où, comme je disais tout à l'heure, où le cadre financier était excessivement difficile. Des conventions collectives qui venaient à échéance aussi très bientôt. Donc, il fallait travailler là-dessus. Donc, en effervescence, puis des troupes qui étaient un petit peu, avec ce qui venait de se passer, un congédiement, on vivait pas ça souvent à l'ASTM, donc ça avait un petit peu aussi perturbé les troupes. Donc,
c'était pas tellement rose. Il y avait beaucoup de défis.
Beaucoup
là.
De défis, mais beaucoup de potentiel aussi. Comme je le disais tout à l'heure, là, une entreprise qui bon, les gens s'en rappellent peut-être pas, mais 165 ans cette année, l'ASTM d'histoire. Donc, des gens formidables, des employés qui sont capables de faire des montagnes avec très peu de moyens. Alors, beaucoup de belles choses de réaliser dans le passé, beaucoup de potentiel pour le futur, mais surtout beaucoup de leviers sur lesquels on pouvait agir.
Et bon, parlons un petit peu de certains accomplissements assez notables pendant votre mandat. On parle ici de l'implantation des trains Azur. Ça a été un gros coup pour le réseau STM, ça. L'arrivée de 300 nouveaux autobus également. J'ai cru voir également dans mes recherches que vous faites souvent des sondages de satisfaction avec vos différents clients. La satisfaction, votre NPS, donc votre Net Promoter Score, a augmenté de 12 points lors de votre mandat. Donc, quand même des belles choses. C'est quoi l'accomplissement, M. Tremblay, que vous êtes le plus fier là pendant vos 8 ans à la tête de la STM?
Ben, j'ai deux choses. La première des choses, c'est d'avoir passé à travers la pandémie. Hein, le transport collectif a été mis à mal. Pendant la pandémie, à un certain moment, on avait perdu 90% de la clientèle. Alors, on était au rendez-vous. Les employés ont été, les hommes et les femmes de la STM, les 11 000 employés que vous parliez tout à l'heure, ils étaient aux prises avec la peur de la COVID et les problèmes aussi, puis ils étaient au rendez-vous. Alors, on a maintenu le service pendant ces 3 années-là. Ça, pour moi, ça semble très simple, là, mais ça a été un travail de tous les instants. Il n'y avait pas de recette. Pour ça, on n'a pas été à l'école. On n'a pas appris ça à l'école, comment gérer une pandémie. Donc, ça se fait avec ces trips. Ça se fait avec des gens qui veulent se dépasser, qui ont le transport collectif dans le sang. Alors ça, c'est pour moi, là, même si ça a été une expérience quand même difficile, ça demeure pour moi une grande, grande réalisation de l'avoir maintenu à flot, puis elle roule encore là, aujourd'hui. Fait que ça, c'était pour moi, on ne pourra jamais nous enlever ça. Là. On a fait un travail incroyable de ce côté-là. Puis la deuxième des choses, je dirais globalement, je parlais de plan stratégique tout à l'heure. Pour une entreprise comme la SM, c'est crucial. Un plan stratégique, c'est notre force, notre checklist, si on veut, en bon français. Alors, on s'était donné des objectifs ambitieux. Et puis après, quand je suis parti, on les a tous dépassés. Alors, puis globalement, vous avez parlé tout à l'heure du taux de satisfaction, de la clientèle, notre Net Promoter Score. Toutes les actions qu'on a fait dans le plan stratégique, c'était pour améliorer l'expérience client parce que dans le cycle précédent, je le disais tout à l'heure, on avait mis beaucoup d'accent sur l'augmentation de l'achalandage. Mais maintenant, on voulait aller plus loin. Plus de clients, mais plus de clients satisfaits. Alors, on a eu plus 12 dans notre plan, dans nos résultats. Puis, à chaque année, on était mesuré aussi par les sondages légers, puis on avait augmenté de 36% en termes de 36 points, pardon, en termes de perception auprès des gens puis de crédibilité. Alors, pour nous, tout ce qu'on a fait pendant ces 8 années-là nous ont permis d'augmenter le service, de rénover nos installations en même temps. Ça, c'est pas toujours facile. C'est comme si vous êtes en train de rénover la cuisine puis vous invitez des gens à souper à la maison. Là, c'est pas toujours évident. Donc, on a fait des très belles choses. On a donné de la capacité pour le futur. Les 300 bus, je vous avais parlé, des trains Azur, c'est un cadeau pour le futur. Alors, tout ça était dans le plan stratégique. On a rattrapé le retard dans le maintien d'actifs. Puis le client nous a dit, on est content de ce que vous avez fait. On apprécie. C'est le fun de prendre le transport collectif. Alors, ça, pour moi, là, c'est difficile de choisir une réalisation parmi tant d'autres. Mais tout le plan, c'était d'améliorer l'expérience client. Puis je pense qu'après 8 ans, avec les satisfactions, on peut dire mission accomplie, je pense, honnêtement.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenus natifs et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, media au singulier.com/HY. PERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours.
Vous l'avez dit, il y a des défis, surtout au niveau de la gouvernance. Il y a 3 actionnaires de la STM. Vous disiez d'ailleurs, je pense, au moment de votre départ, que c'était un des enjeux parce qu'au final, il y a quand même eu certains déficits, des déficits qui étaient là avant la COVID, qui étaient avant également votre arrivée, mais qui, bien entendu, ont été accentués avec la COVID. 43 millions de dollars, je pense, en déficit au moment de votre départ. Et vous en discutiez avec M. Gérald Filion à Radio-Canada lors d'un entretien là, quelques mois avant votre dernier tour de piste avec la STM, que selon vous, il y avait 2 axes très importants que la STM devait travailler dans les prochaines années. C'était une refonte en profondeur du financement, une refonte en profondeur de la gouvernance. Qu'est-ce qui fonctionne pas avec ces 2 volets? Je serais curieux de vous entendre ici, M. Tremblay.
Ben, si on prend le premier point, le financement, en fait, c'est malheureux, mais la STM n'a pas les moyens de ses ambitions. Le modèle financier date de plus de 30 ans. Il n'a pas été révisé. Alors qu'on a des attentes envers le transport collectif avec raison très, très importante compte tenu du défi des changements climatiques. Alors, il faut lui donner les moyens pour qu'elle soit capable de livrer la marchandise. Malheureusement, c'est pas le cas. Quand j'étais là, j'ai quitté parce que là, quand je suis arrivé, j'ai expliqué qu'il y avait un gros trou financier que j'ai résorbé, mais que là, quand j'ai quitté, on me demandait d'en créer un autre de 43 millions. Donc, pour moi, c'était retourner en arrière. Je pouvais pas me résigner à faire ça. Puis là, je regarde le dernier budget, malheureusement, de la STM qui était déposé, puis on n'est plus rendu à 43 millions, on est rendu à 78 millions. Alors, si on croit au transport collectif, malheureusement, il n'y a pas encore de gestes concrets qui sont donnés en termes de financement. Les sources de financement qui sont la taxe sur l'essence, la taxe sur l'immatriculation, le fameux 30 $ que vous payez sur vos immatriculations quand vous renouvelez pour votre voiture une fois par année, eh bien, ça n'a pas été indexé depuis 30 ans. Alors, ça fonctionne pas. Donc, ces sources-là, en plus, il y a de plus en plus de voitures électriques. Donc, la taxe sur l'essence est remplacée par rien. En fait, il n'y a pas de compensation. Les clients qui payaient à peine 29 ou 30 % de ce que ça coûte faire un déplacement, on leur donne de plus en plus de la gratuité. C'est pas mauvais, la gratuité en choix, mais il faut que ça soit compensé par une source de revenus équivalente pour l'opérateur, ce qui n'est pas le cas. Donc,
le portrait économique fonctionne pas. Puis, est-ce que c'est peut-être également relié aux revenus? Est-ce que c'est simplement peut-être trop abordable quasiment de prendre le métro, de prendre l'autobus? Parce qu'au final, est-ce que c'est simplement, on a simplement besoin de plus de financement? Ou on a également besoin de plus de revenus du consommateur?
En fait, je pense que c'est correct que l'usager ou le consommateur ne paie pas le plein prix de ce que ça coûte pour faire un déplacement. C'est un service public. C'est comme si demandait au Québec, quand vous allez à l'hôpital, vous devez payer vraiment ce que ça coûte. Ça n'aurait pas de bon sens. C'est un service essentiel et ça doit être accessible. Donc ça, que le client ne paie pas ce que ça coûte, aucun problème. Il s'agit par contre d'avoir une compensation en équivalence, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, comme je le disais, le client paye 30 % du coût du déplacement, mais le 70 % n'est pas comblé, alors ou très peu. Alors, il faut ajouter des revenus pour venir compenser ça. Je pense pas que le client doit nécessairement payer plus, mais peut-être l'automobiliste doit en payer plus ou à tout le moins les gouvernements en mettent davantage si c'est vraiment une priorité pour tout le monde. Parce que tout le monde, ça paraît bien dire qu'on est pour le transport collectif, mais malheureusement, c'est pas toujours représentatif dans les sources de financement. Alors, ça, il y en a du financement, je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a besoin de beaucoup plus que ça, compte tenu du levier que le transport collectif peut amener dans la société en tant que telle. Alors ça, c'est déficient. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement le reconnaît de plus en plus. On est conscient qu'ils sont aux prises avec toutes sortes de choix budgétaires difficiles, mais on pourra pas continuer comme ça, là. Surtout que l'achalandage avec la pandémie, les gens ont changé leur mode de comportement de déplacement. Donc, il faut revoir ça. Donc, si on donne pas à la STM les moyens de ses ambitions, ben malheureusement, lutter contre les changements climatiques, ça va être... on a un bel outil, là, puis ça pourra pas fonctionner. Pour ce qui est du deuxième point, ben c'est un peu rattaché à ça, c'est la gouvernance. Malheureusement, la gouvernance, la STM, elle a un potentiel incroyable de faire de très belles choses, mais elle est en contrôle pas grand-chose, honnêtement. Depuis, au fil du temps, depuis 25 ans à peu près, on lui a enlevé ses pouvoirs et ses responsabilités petit à petit. Alors, quand j'ai quitté, tout ce qu'elle restait en contrôle, c'était ses dépenses. Elle ne contrôle plus ses revenus. Elle ne contrôle plus son offre de service. C'est l'Autorité régionale des transports métropolitains qui fait ça maintenant. elle ne contrôle plus son endettement. C'est Québec qui décide si on peut emprunter ou pas avec Montréal. Alors, vous avez la 8e entreprise au Québec, vous l'avez mentionné en entrée de jeu tout à l'heure, qui se retrouve avec très peu de moyens pour être en mesure de faire ce qu'on s'attend d'elle, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout respect pour les trois actionnaires qui ne sont pas toujours sur la même page. Alors, pour
toujours ou jamais sur la même page?
Donc, je dirais quand même, il y a quand même des alignements où les gens se retrouvent, mais sur des points importants, dans mes 8 ans, j'en ai vu beaucoup des situations où on est un peu écartelés. On voudrait faire plaisir à tout le monde, mais c'est impossible. Vous avez 3 bailleurs de fonds importants qui vous donnent des orientations contradictoires, ça devient excessivement difficile. Donc, c'est les 2 raisons pour lesquelles, après 8 ans comme directeur général, on va aller faire autre chose parce que ça devient un peu frustrant de travailler dans un domaine comme ça, alors que, je le répète tellement souvent, c'est un joyau, cette entreprise-là, puis elle pourrait faire tellement plus si on lui donnait juste les moyens de ses ambitions.
Donc, si demain matin, vous avez la chance de changer tout ça, vous avez la chance d'améliorer un petit peu comment que le financement est fait, comment que la gouvernance est faite. Quelle serait, puis bien entendu, on n'est pas obligé de rentrer dans le spécifique, là, mais les grandes lignes d'une refonte complète au niveau davantage administratif, financement que vous verriez un petit peu avec la STM?
Bien, en fait, ça peut sembler simpliste, mais c'est de reprendre les solutions qui viennent des 2 problèmes que j'ai mentionnés, c'est-à-dire ça prend un cadre financier, un modèle d'affaires qui est digne des années 2020 et non pas des années 90. Donc, les sources de revenus que je parlais tout à l'heure, si elles se tarissent parce qu'il y a moins de gens qui utilisent la voiture à essence et qu'il y a moins d'immatriculation, il faut la remplacer par une autre source. Et à tout le moins, en attendant, parce que je peux comprendre que c'est compliqué à mettre en place, juste les indexer. C'est pas compliqué d'indexer des sources de revenus, là. Et ça amènerait des dizaines de millions de dollars dans le réseau. Ça prend un peu de courage politique. Ça c'est assez simple, à mon sens, à faire. Ça, c'est plus pour le volet financement. Après ça, il faut réfléchir. On parle beaucoup de taxes kilométriques, par exemple, où là, ça sera plus l'essence. On pourrait taxer l'auto avec, même si c'est une voiture électrique. Donc, ça amènerait des fonds, quand même, dans les coffres de l'État. Donc, au niveau financement, pas tellement compliqué. Surtout, ça fait au moins 30 ans qu'on en parle. Alors, ça prend juste un peu de courage politique. Gouvernance, simplification, puis redonner à cette entreprise-là le pouvoir qu'elle avait auparavant, à être en mesure de contrôler, c'est pas trop demandé, de contrôler ses revenus, contrôler son endettement, contrôler son offre de service. Ceci étant dit, il y avait une logique à l'époque de retirer ces pouvoirs-là. C'était pour que l'Autorité régionale de transport métropolitain prenne sa place et joue un rôle de planificateur intégré. Malheureusement, ça tarde à arriver. C'était ça mon discours. Alors, si ça fonctionne pas, posons-nous des questions et puis peut-être revenons à l'ancien modèle qui était, à mon sens, beaucoup plus efficace que ce qui est actuellement. Mais il faut faire quelque chose parce qu'on tue ce beau potentiel-là de... Puis, je le disais encore tantôt, il est minuit moins 5, la planète se meurt. Alors, beaux joyaux qu'on a pour faire face à ça, ben il est embourbé puis il est étouffé. Alors, il faut qu'on lui fasse la place un petit peu.
Et parlons-en un petit peu parce qu'effectivement, c'est vrai, le transport en commun, un gros coup à jouer dans l'amélioration un petit peu de ce qui est en train de se dérouler sur la planète. Vous le disiez, vous utilisez une analogie, il n'y a pas de vaccin contre l'accélération des réchauffements climatiques. Vous l'avez dit souvent dans des entretiens. Comment vous voyez un petit peu le futur de la STM? Oublions peut-être un peu le volet politique, le volet administratif. Bien entendu, les deux sont liés ensemble. Mais tout de même, comment le réseau peut-être continuer à évoluer pour s'assurer qu'il soit capable de répondre à cette grande problématique-là qu'on fait tous face?
En fait, ça, c'est indéniable que l'ASM va continuer à s'adapter à ce qui se passe. C'est une des plus belles qualités des employés de l'ASM, c'est sa résilience. Comme je te dis, ça fait des années qu'elle n'a pas les moyens de ses ambitions et les gens ont réussi à faire des choses formidables. Alors, ils vont continuer à faire des choses formidables avec pas grand-chose parce que c'est des gens qui ont, on appelle ça à l'ASM avoir le sang bleu, c'est des gens qui sont dévoués à ça, qui croient en ça. Faut comprendre, quand je suis entré à l'ASM il y a 30 ans, là, le transport collectif, c'était pas quelque chose de très, très à la mode. Là. Aujourd'hui, ça l'est parce que les nouvelles générations croient à l'environnement, sont au courant qu'il y a une problématique avec la crise climatique. Alors, ils poussent dans cette orientation-là. Alors, au moins, la mission est là. Elle est noble et il y a la qualité, la compétence, je le disais tout à l'heure, 165 ans d'existence, la STM. Alors, ces gens-là sont capables de faire n'importe quoi. Il s'agit juste de leur donner un petit peu de moyens pour être capables de le faire. Puis même s'ils n'en ont pas, ils vont continuer à progresser parce que si vous regardez ce qui s'est fait dans les 30 dernières années, c'est des miracles qui ont eu lieu dans les dernières années. Alors, moi, je suis convaincu que c'est pas juste une question de moyens, c'est une question de compétences. Ces gens-là ont ce qu'il faut pour être en mesure de relever le défi des changements climatiques. Il faut juste qu'on leur donne un petit peu d'aide pour être en mesure de faire face. Mais ça passe par, entre autres, la diversité, ce qui est déjà très, très clair, très, très fort à l'ASM. 34 % des employés reflètent le client qui déplace. 34 % des employés sont issus de la minorité ethnique visible et autochtone. C'est pas quelque chose à la mode où on a fait ça à l'ASM depuis 2-3 ans. Ça fait 30 ans qu'on parle de ça. Donc, il y a un côté très innovant à l'ASM, très ouvert, très développement durable. On était dans les premiers à signer les chartes de développement durable. Il y a un plan, vous parlez de dire, je suis plus à l'ASM, mais encore passionné, mais il y a eu une orientation sur le développement durable qui date de 20 ans. Alors, cette capacité-là de voir venir les grands courants et de se lancer là-dedans puis de faire bouger les choses, l'ASM l'a déjà et elle va continuer à le faire. Alors, moi, je suis pas inquiet qu'elle va jouer un grand rôle pour la lutte au changement climatique. Il faut juste s'agit de savoir si ça va être 100%, 150% ou 300% de ce qu'on pourrait faire. Ça dépend qu'est-ce qu'on va lui donner comme pouvoir puis comme moyens financiers.
Et parlons un peu de vous, Monsieur Tremblay. Là, vous avez quitté votre rôle en 2022 de directeur général de la STM. Où va votre temps maintenant et où va aller votre temps dans le futur?
Ah ben ça, écoutez, depuis 5-6 mois, là, j'ai pris une pause. Après 28 ans, là,
j'imagine.
Faut se désintoxiquer un petit peu. Donc, j'ai essayé de prendre un peu plus de temps pour moi. Surtout après la pandémie, ça a été un moment difficile. Donc, j'ai pris un peu de repos au cours des derniers mois. Et là, depuis quelques semaines, je suis de retour. Là, je siège sur des conseils d'administration. On me sollicite pour donner de l'aide un petit peu dans mon domaine ou dans... Quand t'as donné que j'ai des connaissances en comptabilité et en finance, je suis sollicité aussi de ce côté-là. Alors, j'ai quelques opportunités sur la table. Je regarde ce que je vais faire. Évidemment, à 54 ans, j'ai pas l'intention de m'arrêter, mais je serai peut-être pas à 300 à l'heure comme je l'ai été pendant les 8 dernières années. Mais il s'agit de continuer à m'impliquer, de faire évoluer cette cause-là si je suis capable. Ou en gestion, j'adore parmi ce que j'ai fait dans ma carrière, là, j'ai de l'expertise de ce côté-là. Donc, je suis sollicité dans des différents conseils d'administration. Je lance en même temps un appel. S'il y en a qui cherchent de l'aide, là, je suis ouvert à toute proposition. Mais pour résumer, là, je suis en train de regarder ça. J'ai accepté déjà 2 conseils d'administration. Je suis en train de regarder ce que je veux faire là, de façon un peu plus élaborée là, au cours de 2023.
Fantastique. Puis j'aime toujours finir sur des questions personnelles, M. Tremblay. Est-ce que vous êtes un amateur de lecture?
Absolument. J'étais pas plus tard que la semaine dernière, j'ai passé un après-midi au Salon du livre. J'adore ça.
Oh! Et est-ce que vous avez peut-être des livres un peu reliés au monde des affaires que vous avez lus dans votre vie qui ont marqué votre imaginaire qu'on pourrait partager avec notre audience aujourd'hui?
En fait, il y aurait trois choses que je pourrais peut-être mentionner. Le premier, moi, je suis un passionné de sport en même temps que du monde des affaires. J'ai souvent fait les parallèles dans mon style de gestion entre le sport et le monde des affaires. Et j'ai terminé une lecture il y a peut-être quelques semaines de « Derrière le coach », qui est un livre qui parle de tout l'être humain et la façon que les coachs du Canadien, depuis sa création en 1909, ont trouvé pour contourner des obstacles, des défis. Alors, je trouvais ça intéressant parce qu'on parle beaucoup, évidemment, de toutes les vedettes des Canadiens, les joueurs, mais on n'a jamais mis l'accent sur les coachs. Et quand on lit ce qu'ils ont vécu personnellement, ce qu'ils ont vécu professionnellement, on peut faire plein de parallèles avec le monde des affaires. C'est hyper intéressant. Mmh. Et il y a un volet, en plus, historique, parce qu'on part de 1909. Donc, dans les 100 quelques dernières années, il s'est passé toute chose, plein de choses à Montréal. Alors, c'est possible de s'inspirer de ça, d'aller voir ça. Puis, je dirais qu'il y a un petit volet un petit peu aussi un peu plus personnel parce que moi, j'ai un de mes grands-oncles qui a joué pour les Canadiens et qui a été coach des Canadiens de Montréal à l'époque, Silvio Manta. Alors, ça se trouve être le frère de ma grand-mère. Alors, moi, il y a un petit volet un plus personnel que je retrouve là-dedans. Donc, ça, c'est toujours le fun de voir un peu sa généalogie puis de voir, c'est dans les années 40, de voir qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Puis, c'est peut-être de là que j'ai hérité un peu de mon sens des affaires. Donc, ça, je trouvais ça très intéressant. Donc, je le recommande derrière le coach là, qui a été publié tout récemment. Donc, ça, c'est hyper important. Et puis, le deuxième que je pourrais mentionner, c'est toute l'histoire. J'ai oublié le titre exact, là, il va peut-être me revenir, mais c'est tout ce qui s'est passé avec SNC-Lavalin. Tout l'aspect cubidité, puis à quel point, des fois, on est dans des entreprises confronté à toutes sortes de choses. Quand on met de la pression pour la production, puis être capable de relever des défis, rencontrer des objectifs, très intéressant de voir à quel point parfois on devient, nos angles morts nous rattrapent, puis ça peut devenir une vision tunnel, puis on oublie de regarder certaines choses.
Ouais,
alors, très exactement. Instructif pour avoir été, moi, dans une situation à l'intime où on peut être un petit peu très, très pressurisé pour rendre des comptes, faire être performant et tout ça. Donc, il faut se rendre compte aussi que c'est important des fois de prendre le recul puis de regarder un peu. En finance, en comptabilité, on a un principe, primauté de la substance sur la forme. C'est important de regarder ça à l'esprit un petit peu. Donc, ça, je trouvais ça très, très aussi, très enrichissant. Je l'ai lu cet été après avoir passé toutes ces années-là dans le monde des affaires, de prendre un peu de recul par rapport à ça. Puis j'en aurais un dernier que je recommanderais,
allez-y.
Qui est très rapidement, qui est Sauver la ville. C'est été écrit par Daniel Sanger, qui reprend un petit peu toute l'histoire de la création de Projet Montréal. Projet Montréal, qui est l'administration qui est au pouvoir en ce moment à Montréal, qui est une administration pro-transport collectif, qui a mis beaucoup l'accent là-dessus. Et on voit un peu, c'est un livre assez épais qui explique comment tout ça s'est formé. Et c'est très important parce que même si c'est un parti politique, c'est une organisation. Alors, voir comment on peut voir que tout petit, on a fait face à plusieurs défis. On s'est renouvelé continuellement, puis on est rendu maintenant qu'on gère Montréal pour un deuxième mandat. Donc, c'est aussi très instructif de voir comment on peut développer des organisations. Quand on a une vision claire dès le départ, il est possible d'arriver avec des résultats assez impressionnants en bout de ligne. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Ça aussi, j'ai lu ça cet été.
Fantastique. On en prend des bonnes notes. Podcast, est-ce que vous en écoutez un peu?
Ça, c'est plus léger, je vous dirais. C'est moins relié au monde des affaires. J'en écoute deux régulièrement. Ça, c'est mes petits plaisirs coupables. J'ai une maison de campagne dans les cantons de l'Est et je suis souvent sur la route. J'écoute, c'est un petit peu, c'est mon petit côté, comme je disais tout à l'heure, vraiment pour relaxer. Chronique criminelle, c'est un podcast français qui, je vous dirais même un petit peu, c'est très, il y a un côté humoristique assez développé parce qu'on étire un peu la sauce et ça fait très, très, c'est très exagéré comme accent et tout ça. Donc ça me détend un peu toujours quand j'écoute ça. Et j'aime bien aussi celui de Sam Breton qui avait été mis en place pendant la pandémie où il rencontre des gens de tout horizon. Ça aussi, ça me permettait de décrocher complètement et de penser à autre chose que juste le monde des affaires et de ce qui vient avec. Donc, important aussi de changer le mal de place en tant que tel. Puis à l'occasion des podcasts sur le hockey, là, comme je disais tout à l'heure, j'adore ça, mais moins sur une base régulière en tant que tel.
Et routine, vous avez dit que vous êtes un amateur de sport. À quoi ressemble un peu votre routine le matin, l'après-midi, le soir?
Ben moi, ce qui m'a permis de passer à travers le stress durant toutes ces années-là, c'est la course à pied. Sans course à pied, j'aurais eu des gros problèmes d'anxiété. Alors, je cours 5 km tous les jours minimum. Des fois, wow. L'été, des sorties d'une dizaine de kilomètres. J'ai fait une dizaine de demi-marathons en carrière. Donc, pour moi, c'est une drogue. Alors, si je cours pas, je me sens pas bien. Donc, la course à tous les matins, évidemment. En vieillissant, il faut aussi prendre du tonus musculaire, donc un peu de poids haltère en même temps pour garder du tonus. Et puis, par la suite, bon, on commence nos activités professionnelles qui, avouons-le, actuellement, sont beaucoup moins élaborées qu'elles ne l'étaient. Mais j'ai toujours fait de la place pour le sport. J'ai joué au hockey Cosam jusqu'à tout récemment, au hockey sur glace il y a jusqu'à 3 ou 4 ans. Même quand j'avais des oreilles chargées, le sport, c'est un cliché. Le sport, c'est la santé, mais quand on occupe des fonctions avec beaucoup de stress comme ça, ça m'a permis de passer à travers ça beaucoup plus facilement.
Fantastique. Bien, Monsieur Tremblay, très inspirant l'entretien qu'on a eu ensemble aujourd'hui. On a un portrait plus clair de la STM, de votre carrière également. Je pense que c'est assez inspirant. Ça nous donne un petit peu plus de contexte également sur la complexité de gérer une organisation aussi grande qui a autant d'impact sur la vie des citoyens montréalais, là, littéralement. C'est un vecteur tellement important de la ville. Donc, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Si on veut vous suivre, en apprendre un petit peu plus, bon, je sais que présentement, vous êtes dans une période que vous prenez un petit peu plus de temps pour vous. Tout le monde le mérite. Mais tout de même, est-ce qu'il y a un endroit particulier plus facile pour vous rejoindre?
Bien, évidemment, sur les réseaux sociaux, je suis sur LinkedIn et mon adresse courriel est inscrite. Donc, c'est le meilleur moyen de me rejoindre. C'est comme ça jusqu'à présent qu'on m'a offert certaines choses. Donc, je pense que c'est la meilleure façon. Puis je prendrai 30 secondes pour vous remercier de m'avoir invité, puis de surtout, au-delà de ma personne, c'est de prendre le temps de donner de la visibilité à la STM. C'est une belle grande dame, on a besoin qu'on s'occupe d'elle puis qu'on lui laisse la place. Alors puis c'est une entreprise formidable. Donc je vous remercie pour ça d'avoir permis qu'on puisse parler de cette belle institution québécoise.
Mais le plaisir est pour moi. Monsieur Tremblay, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.
Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.